Merci d'être à l'écoute de RFI, 1h à Paris, minuit en temps universel.
Mathis Limano.
Et à la une, pas de libération de Palestiniens sans l'arrêt des cérémonies humiliantes pour les otages à Gaza. Voilà comment Israël justifie ce soir le retard dans la libération de centaines de détenus palestiniens. Ils devaient recouvrer la liberté ce samedi en échange de 6 nouveaux otages, eux bien libérés par le Hamas. Leur profil juste après les titres avec notre correspondant en Israël. À suivre, l'Ukraine va-t-elle résister à la pression américaine? Washington presse Kiev pour sceller un accord sur les minerais ukrainiens. Mais Volodymyr Zelensky tente de rester ferme, un accord équitable ou pas d'accord. Et puis Emmanuel Macron était ce samedi au Salon de l'Agriculture, une déambulation bien moins chahutée que l'année dernière, vous l'entendrez. L'attente se poursuit donc à Ramallah, en Cisjordanie. Des proches de prisonniers palestiniens patientent depuis samedi matin. Plus de 600 détenus devraient déjà avoir quitté leur geôle. Mais ce soir, Israël prévient pas de nouvelle libération de prisonniers sans l'arrêt, je cite, des cérémonies humiliantes de libération d'otages à Gaza. 6 d'entre eux ont d'ailleurs été libérés ce samedi par le Hamas avec la mise en scène habituelle, estrade, présentation des otages devant une foule chauffée à blanc, puis remis au service de la Croix-Rouge. Il s'agit du plus important échange entre Israël et le Hamas, mais aussi le dernier de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Michel Paul, à Jérusalem.
Dernier des otages à recouvrer la liberté, Hicham Al-Sayed, un bédouin âgé de 36 ans, qui souffre de troubles psychiques. Il a été libéré dans la ville de Gaza après plus de 10 ans de captivité et avoir traversé la frontière de son plein gré. Et sa libération, contrairement à celle des autres otages, s'est faite sans la mise en scène organisée habituellement par les hommes du Hamas. En tout donc, 6 Israéliens ont été libérés aujourd'hui, 3 d'entre eux capturés lors du festival de musique Nova le 7 octobre 2023, 2 binationaux, israélo-argentin et israélo-autrichien, et également Avera Mengistu, un juif éthiopien, lui aussi en mauvaise santé mentale. Il s'était rendu spontanément il y a 11 ans à Gaza. Jeudi prochain, 4 otages qui ne sont plus en vie seront restitués à Israël, et d'après le décompte, parmi eux devrait se trouver le franco-israélien Oadi Alomi. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et dans nos prochaines éditions, RFI vous informe quant à l'évolution de la situation pour les prisonniers palestiniens. Ils sont, je vous le rappelle, 602 à attendre leur libération. Par ailleurs, en Israël, les médecins légistes ont rendu leur conclusion. L'autopsie de la famille Bibas n'a révélé aucune blessure causée par un bombardement, contredisant ainsi la version du Hamas qui continue d'incomber leur mort à une frappe israélienne. Shiri Bibas et ses 2 garçons, Ariel et Kvir, 4 ans et 8 mois, tués à Gaza, sont devenus en Israël le symbole de la tragédie qui a frappé le pays. RFI 19h03 à Washington, 2h03 à Kiev. Dans un message vidéo diffusé vendredi sur ses réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky a confirmé que ses équipes travaillaient sur un projet d'accord avec les États-Unis, un accord sur les minerais ukrainiens. Ces derniers sont au cœur des négociations de paix et des convoitises de Donald Trump. Le président ukrainien veut lui un accord équitable, mais Washington met la pression. L'Ukraine doit accepter et vite, dit un proche conseiller de Donald Trump. Une première version avait été rejetée par Volodymyr Zelensky, qui avait souligné que son pays n'était pas à vendre. Anne Verdaguet.
L'accord original avait été présenté début février par Donald Trump et porté sur un accès à hauteur de 50% aux minerais stratégiques du pays. Proposition vertement rejetée par le président ukrainien qui réclamait notamment des garanties de sécurité pour son pays afin d'empêcher toute nouvelle incursion russe après un éventuel accord de paix. Depuis, les tensions se sont fortement accrues, Donald Trump accusant son homologue ukrainien d'être un dictateur tout en l'écartant des discussions et en amorçant un brusque rapprochement avec la Russie. Aujourd'hui, cette question de l'accès aux minerais situés dans le sol ukrainien est un levier essentiel dans les prémices de ces négociations de paix. Un accord pourrait rapporter jusqu'à 500 milliards de dollars aux États-Unis, selon des déclarations à la Maison-Blanche. L'Ukraine possède d'importantes ressources en lithium et en titane qui sont essentielles pour les technologies de pointe, notamment l'aérospatiale et les véhicules électriques. Les États-Unis en ont cruellement besoin face à un rival chinois qui contrôle aujourd'hui la très grande majorité de la production des terres rares. L'administration Trump estime qu'un accès à ces ressources permettrait aussi de compenser en partie les États-Unis pour l'aide militaire et économique déjà fournie à l'Ukraine.
Et pour se rembourser de cette aide fournie à Kiev depuis bientôt 3 ans de guerre, Donald Trump veut des terres rares, du pétrole, n'importe quoi qu'on puisse obtenir. C'est ce qu'a lancé le président américain à la CPAC, la grand-messe des conservateurs aux États-Unis. Le pape François est dans un état critique. Son pronostic est actuellement réservé, indique le Vatican. L'état de santé du pape qui préoccupe grandement. À 88 ans, il entame sa deuxième semaine d'hospitalisation pour une pneumonie aux deux poumons. Elle avait été chaotique l'année dernière, en plein mouvement de protestation des agriculteurs. La traditionnelle déambulation du chef de l'État en France dans les allées du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron s'est à nouveau prêté à l'exercice ce samedi. Rencontre avec les syndicats, puis avec les agriculteurs et des passants. Dans une ambiance, cette fois-ci, un peu plus détendue, Valérie Gasse.
Rien à voir avec l'ambiance de guerre de tranchées de l'année dernière. Aujourd'hui, le chef de l'État mène sa visite tranquillement. Il est vrai, avec un dispositif de sécurité assez impressionnant qui maintient la foule des visiteurs à distance. Et le président semble profiter du moment.
Comment ça va ?
Bonjour, ça va et vous ?
Ça fait plaisir de vous voir.
Surtout quand il déguste de la saucisse.
Vous faites quoi, là ? Vous la séchez ?
C'est assez simple.
Mais au détour des stands, Emmanuel Macron est toujours confronté à l'expression du désespoir de certains agriculteurs.
On a abandonné le monde agricole pendant trop longtemps. Moi, mon histoire, c'est la même que d'autres. J'ai retrouvé mon père avec une balle à la tête.
Je sais.
Et ça, je veux plus que ça se produise.
La loi d'orientation agricole vient d'être votée, mais le secteur reste en crise et les contraintes environnementales mal vécues. Une mesure a été prise pour calmer leur colère, la dépénalisation des atteintes à l'environnement involontaire, mais elle est critiquée par les écologistes. Le chef de l'État l'assume.
Mais je pense qu'il faut entendre le message de ces beaucoup d'agriculteurs qui ne peuvent plus accepter d'être traités comme des délinquants.
Comment réussir la transition écologique lorsqu'on
respecte
ensuite de dépénaliser les atteintes à l'environnement lorsqu'elles sont pas faites exprès?
Parce que, un, il faut accompagner les gens avant de taper. Et ensuite, quand on sanctionne, on peut le faire dans le civil et pas dans le pénal.
Aujourd'hui, Emmanuel Macron espère apaiser les agriculteurs. Valérie Gasse avec Diego Tenorio et Julien Boileau au Salon de l'Agriculture.
Et au Salon de l'Agriculture à Paris, où Emmanuel Macron a aussi affirmé sa confiance envers son Premier ministre, François Bayrou, affaibli par l'affaire Betarame, accusé d'avoir été informé des violences physiques et sexuelles qui auraient eu lieu dans cet établissement scolaire catholique. À noter ce placement en détention provisoire vendredi d'un ex-surveillant de Betarame. Il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle aggravée. Toujours en France, cette attaque au couteau à Mulhouse, dans l'est du pays, fiché pour terrorisme et atteint de schizophrénie, selon le ministère de l'Intérieur. Un homme de 37 ans a tué une personne et blessé deux policiers. L'assaillant est en garde à vue. Le fanatisme a encore frappé et nous sommes en deuil, a réagi le Premier ministre François Bayrou. RFI 1h07 à Paris. Objectif Lune. Près de 50 ans après avoir marché sur la Lune, qui sera le premier à rééditer l'exploit? La Chine s'y prépare et ambitionne d'y poser le pied d'ici 2030. Les Américains et leurs partenaires européens et japonais voudraient bien faire la même chose si possible avant, avec leur programme Artemis. Pour le compte de la NASA, ils sont en train de construire une station spatiale qui servira d'avant-poste aux astronautes. Reportage de Justine Fontaine à Turin, en Italie, dans l'une des usines où est fabriquée cette future station spatiale.
Pour l'instant, les modules où vont séjourner les astronautes autour de la Lune ressemblent à de grands cylindres en aluminium, 3 mètres de diamètre chacun. Ils sont construits dans cette usine de la banlieue de Turin par l'entreprise franco-italienne Thales Alenia Space. Dernier serrage de boulons avant le départ pour les États-Unis le mois prochain.
Ils sont en train de sceller le sas d'entrée.
Anna Maria Piras de Thales Alenia Space.
C'est une activité très complexe. Il faut être extrêmement précis pour garantir qu'il n'y ait pas de fuite d'air.
En tout, l'entreprise a décroché pour plus de 800 millions d'euros de contrats pour produire la majeure partie du squelette de la station, qui sera bientôt assemblé dans l'espace, un peu comme un Lego.
Nous prévoyons le premier lancement en 2027.
John Olensen de la NASA dirige pour l'agence spatiale américaine le programme Gateway, du nom de cette future station spatiale, un avant-poste pour les astronautes vers la Lune et même au-delà.
L'idée est de trouver comment on peut fonctionner dans l'espace lointain afin de poursuivre l'exploration jusqu'à Mars ou plus loin.
Mais le projet a pris du retard, les dates de lancement sont régulièrement repoussées. Alors Pékin va-t-elle doubler les Occidentaux? Pas de commentaire du représentant de la NASA. Justine Fontaine, Turin, RFI.
Et puis Marseille se fait surprendre sur la pelouse d'Auxerre, 10e de Ligue 1. Les Olympiens, réduits à 10 en seconde période, se sont fait punir 3-0. Et dans le rétroviseur des Marseillais, Lille revient fort sur le podium après son succès 2-1 sur Monaco. Tandis qu'Angers et Saint-Etienne se sont eux neutralisés 3-0 dans l'autre rencontre de ce samedi en Ligue 1 de football. RFI, il est presque 1h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.